Europe 1. Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence comme une affaire criminelle et se termine comme une affaire médicale. C'est l'affaire Romain Dupuis, un jeune schizophrène de 21 ans qui, en 2004, décapite une infirmière de l'hôpital psychiatrique de Pau et égorge une aide-soignante. Avec derrière cette question, comment faire admettre aux deux victimes, aux deux familles de victimes, qu'il ne peut pas y avoir de procès parce que le tueur, Romain Dupuis, est un malade mental. Et puis dans cette affaire, il y a aussi une histoire dans l'histoire. L'histoire d'une maman qui savait que son fils était dangereux, qui a tiré toutes les sonnettes d'alarme pour le faire interner et qu'on n'a pas entendu. Cette maman, je l'avais interviewée il y a quelques années pour l'émission Faites Entrer l'Accusé et j'ai choisi de vous faire entendre aujourd'hui deux extraits de cette interview absolument bouleversante. Et pour le débrief, tout à l'heure, j'ai naturellement invité un psychiatre. Bonjour docteur Ferreri.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et je vous ai invité en tant que sachant. Romain Dupuis n'était pas un de vos patients, mais il n'empêche que j'aurai beaucoup de questions à vous poser après. Voici cette histoire, je l'ai écrite avec Emmanuel Denise, réalisation Céline Lebras.
Allô, police secours? Oui, bonjour, le centre hospitalier des Pyrénées à l'appareil, l'hôpital psychiatrique. Dites, on a un carreau cassé dans un des pavillons. Une effraction, manifestement. On n'est pas rentré, hein. Vous pouvez venir?
Ok, on arrive, je vous envoie un équipage. Le commissariat de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, reçoit ce coup de fil de l'hôpital psychiatrique le 18 décembre 2004, un peu avant 7h du matin. Le premier jour des vacances de Noël. C'est le début de notre histoire. Car derrière ce carreau cassé vient de se dérouler l'un des meurtres les plus barbares, les plus terrifiants qu'il m'ait été donné de vous raconter. Terrifiant, le décor l'est aussi. Le centre hospitalier des Pyrénées de Pau est un hôpital psychiatrique qui date de 1865. Et il est presque dans son jus du 19e siècle. Presque. 42 bâtiments délabrés, répartis sur 42 hectares, un petit quartier. Et avec ça, ouvert aux quatre vents, comme dit le directeur. Mais enfin, ça n'est pas une prison. J'ajoute que certains bâtiments, abandonnés, sont squattés par des SDF. Voilà pour le décor. Alors ce carreau cassé. Deux policiers arrivent sur place à moto quelques minutes après le coup de fil. En fait, de carreau cassé, c'est un vasistas qui est cassé. Et c'est vrai que ça ressemble à une effraction. D'autant que quand on baisse la tête, sous la fenêtre, il y a des traces de sang. Oh ben dis donc, à tous les coups, c'est le voleur qui s'est coupé, ça. Et il n'y a qu'à suivre les gouttes. Et les voilà partis, le nez sur le carrelage, qui traverse d'abord un vestiaire, puis qui remonte un long couloir, toujours en suivant les gouttes de sang, et qui arrive dans un petit salon. Il y a un sapin de Noël et, juste au pied, une flaque de sang, avec une forme au milieu. Les deux flics ne réalisent pas tout de suite, et pour cause.
Wata ! Mais putain ! Elle est où la tête ?
C'est un corps de femme, mais sans tête. Une infirmière, elle a l'uniforme. Et la tête alors ? Eh bien la tête, elle est posée comme un trophée sur la petite télévision du salon. C'est une horreur, c'est une barbarie. Et là, les policiers voient une porte ouverte. Derrière, la lumière est allumée. C'est le bureau des infirmières. Le sous-brigadier pousse la porte du bout du pied. Et là, c'est un film d'horreur. Au sol, face contre terre, il y a une autre femme. Elle a sa tête, mais elle a été égorgée et massacrée à coups de couteau. Une boucherie. Le sous-brigadier attrape tout de suite sa radio.
Allô, centrale. Il me faut du renfort. Un corps décapité, une personne égorgée.
Le problème, c'est que dehors, le message est passé en grand sur la radio de la moto. Alors les infirmiers ont tout entendu. Et quand les policiers ressortent, blême, ils trouvent toute l'équipe de jour face à eux.
Qui c'est ? Qui a été décapité ? C'est un patient, c'est qui ?
Les policiers baissent le regard.
Non, c'est un de vos collègues.
La première, celle qui a été décapitée, s'appelait Chantal Klimaszewski. Elle avait 48 ans et 2 enfants. Elle était infirmière et travaillait dans ce pavillon depuis 6 ans. Le deuxième corps est celui de Lucette Gariot, 40 ans. Maman d'un petit garçon de 6 ans, elle était aide-soignante depuis 8 mois dans ce pavillon. Mais qui a pu commettre une telle horreur ? Et pourquoi ?
14h, 15h, on de la traconte sur Europe 1. Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle très douloureuse, l'affaire Dupuis, que nous allons débriefer tout à l'heure avec un psychiatre, le docteur Florian Ferreri de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Nous en étions au tout début, quand en décembre 2004, dans un pavillon de l'hôpital psychiatrique de Pau, on retrouve 2 corps. Une infirmière qui a été décapitée et une aide-soignante égorgée. C'est la police judiciaire de Bordeaux qui est appelée pour diriger l'enquête. Elle passe la scène de crime au peigne fin. Et le tueur est imprudent, il a laissé tout un tas d'indices. 3 empreintes digitales bien distinctes sur le vasistas brisé, une trace de chaussure très nette de marque Reebok taille 43 et un truc bizarre aussi. On dirait que sur son passage partout, il a semé des vis cruciformes. Mais le plus intéressant bien sûr, ce sont les taches de sang, le chapelet de gouttes de sang qui a conduit les policiers jusqu'au cadavre. Il s'est blessé, manifestement, en cassant la vitre. Et donc, on a son ADN.
Les enquêteurs pensent que la piste est sérieuse car les traces de sang ont été retrouvées dans plusieurs endroits de la scène du crime, ce qui laisse peu de chance pour qu'ils proviennent de quelqu'un d'autre que l'assassin. Les hommes du laboratoire de police scientifique de Toulouse ont donc ce soir le profil génétique du suspect numéro 1.
Et on passe cet ADN au fichier. Ça ne donne rien. Le tueur n'est pas répertorié. Est-ce que ça pourrait être un cambriolage qui a mal tourné ? Évidemment que non. D'abord, on n'a rien volé, et puis on ne décapite pas quelqu'un après un cambriolage. Ça ne tient pas debout. Non, la décapitation suggère que c'est un malade mental, un patient de l'hôpital. Est-ce que ça peut être l'un des patients du pavillon ? Ça, c'est peu probable. C'est un pavillon de gériatrie, une majorité de malades d'Alzheimer. Ils ont tous plus de 70 ans, on les voit mal passer par le vasistas. Mais bon, dans le doute, on leur fait à tous un test ADN. Négatif. Les policiers font aussi passer des tests ADN aux familles des 2 victimes. Sage précaution, au cas où quelqu'un de la famille serait venu régler ses comptes à l'hôpital. Mais là encore, négatif. Au cas où, on vérifie aussi si les 2 femmes avaient des amants, des histoires, des embrouilles. Nada. Donc à coup sûr, c'est un fou. Un fou capable de décapiter et d'égorger 2 femmes et qui est donc en liberté. Et là, autant vous dire que les employés de l'hôpital sont morts de trouille.
On a toujours la crainte de... Est-ce que cette personne ne va pas revenir ? Ce qui vient surtout à l'esprit, c'est... C'est ces visages qu'on ne reverra plus et surtout les horribles conditions dans lesquelles elles ont trouvé la mort. Et vous ne pouvez pas rester indifférent. C'est terrible. C'est... Tout le week-end, j'ai essayé de faire autre chose, de faire de la mécanique. Je n'étais pas concentré. Je travaillais un petit peu et puis mon esprit décrochait et revenait ici.
Le ministre de la Santé, Philippe Touste-Blazy, est obligé de sortir le carnet de chèques, 300 000 euros, pour sécuriser les bâtiments de l'hôpital psychiatrique. Dans les jours qui suivent, 30 anciens patients de l'hôpital sont interrogés. On vérifie leur emploi du temps et on les relâche un par un. Alors début janvier, les policiers sortent la grosse cavalerie. Ils lancent une grande campagne de prélèvement ADN. 1300 tests sont réalisés sur tous ceux qui côtoient de près ou de loin cet hôpital psychiatrique, jusqu'aux pompiers de la caserne voisine qui viennent manger tous les jours à la cantine. Ça ne donne rien. Négatif sur toute la ligne. C'est un banal contrôle d'identité qui va tout débloquer. Le 29 janvier, plus d'un mois après la tuerie, il est 23h, trois policiers de la BAC patrouillent en voiture banalisée dans le quartier du Hédas, dans le centre-ville de Pau. Et là, ils repèrent un jeune qui est en train de fumer un pétard assis sur un muret, en pleine rue, sans se cacher. Ils s'arrêtent, ils descendent et ils enfilent leurs brassards. Bonsoir, monsieur. Police nationale, vous pouvez nous présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît. Vous me contrôlerez pas ? Je suis en bas de chez moi. Et là, le type plonge la main dans son manteau, comme pour chercher ses papiers, et il sort un pistolet. Et il vise l'un des policiers, à bout portant, et il l'appuie sur la gâchette. Mais le coup ne part pas. Il essaye encore, rien. Et là, il se met à courir, en tentant de glisser une nouvelle balle dans le chargeur. Mais les policiers lui arrachent son arme, et ils le neutralisent. Il s'appelle Romain Dupuis, il n'a que 21 ans, il le ramène au poste pour l'interroger.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle très douloureuse. L'affaire Romain Dupuis, que nous allons débriefer tout à l'heure avec un psychiatre, le docteur Florian Ferreri, de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Le 18 décembre 2004, une infirmière et une aide-soignante de l'hôpital psychiatrique de Pau sont sauvagement assassinées dans l'enceinte de l'hôpital. La première est décapitée et sa tête posée sur une télévision dans un coin. La seconde est égorgée. La police dispose de l'ADN du tueur. Plus de 3000 personnes qui gravitent aux alentours de l'hôpital sont testées. Ça ne donne rien. Au cours d'un contrôle d'identité, les policiers tombent sur un patient de l'hôpital, un schizophrène, qui tente de leur tirer dessus. Il a 21 ans. Il s'appelle Romain Dupuis. Pour l'instant, ils ne l'interrogent que parce qu'il a tenté de leur tirer dessus.
Je me croyais dans un film, comme dans Léon. Je me suis dit, shoot dans le tas. Mais l'homme fait, on vous a pas agressé ou menacé. Il s'agissait de contrôler votre identité. Vous êtes tous dans le même lot. PD, nazis, policiers. Vous êtes tous ensemble à vouloir m'attaquer.
Le gamin est complètement allumé. Et pour couronner le tout, il porte dans les cheveux une barrette qu'il s'est fabriquée avec la mâchoire d'un animal. Mais qu'est-ce que c'est que ce zigoto ? Il demande alors à un psychiatre de l'examiner.
Il est schizophrène. Et a priori, il est en crise. Il faut l'interner rapidement.
Il n'est pas traité ?
Si, si. Il a fait plusieurs séjours à l'hôpital psychiatrique de Pau. 3 séjours à ma connaissance.
Un ancien patient de l'hôpital psychiatrique en crise. Évidemment, dans leur tête, ça fait tilt. Alors avant de laisser partir Romain Dupuis pour l'hôpital psychiatrique, l'un des policiers, le capitaine Chollet, lui demande
« Tiens, je vois que vous avez des chaussures Reebok aux pieds. Vous faites quelle pointure ? 41 ? Chausse du 41 ? Ah bon ? C'est curieux. Moi je chausse du 43. J'ai bien l'impression que vos baskets là, c'est du 43 aussi. Vous pouvez les enlever, que je regarde ?»
Le gamin retire ses baskets. Et c'est bien du 43. Mais mieux que ça, la semelle correspond parfaitement à la trace de pas retrouvée sur les lieux du crime. Le policier regarde sa main gauche. Il est blessé.
Et le meurtre de l'hôpital psychiatrique, Romain ? Tu en as entendu parler ? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Moi ? Moi, j'ai rien à voir avec cette histoire !
Les policiers lui font alors un prélèvement ADN et ils le laissent partir pour l'unité pour malades difficiles de l'hôpital psychiatrique de Cadillac, près de Bordeaux. Et en attendant les résultats, ils vont perquisitionner chez lui. Sa chambre, oh là là, sa chambre. Sa chambre fait peur, très peur. Elle est tapissée de posters, de photos de femmes découpées dans les magazines. Et sur chaque image, il a dessiné des sabres, des couteaux, et autour de leur cou, des taches de sang. Et chaque poster est attaché au mur avec des petites vis cruciformes du même format que celles qu'on a retrouvées sur la scène de crime. Et en fouillant encore, il trouve un sabre japonais, des magazines sur les samouraïs et une mallette de couteaux de cuisine. Vide. C'est alors que tombe le résultat de la comparaison ADN. C'est lui. C'est lui. C'est ce gamin de 21 ans qui a décapité l'infirmière et égorgé l'aide-soignante de l'hôpital. Alors le 31 janvier, Romain Dupuis est ramené à Pau et placé en garde à vue. Au début, il nie.
C'est pas moi. Je comprends pas pourquoi mon ADN se trouve là-bas.
Le capitaine Chollet qui l'interroge change alors de stratégie. Il lui parle d'autre chose, de sa passion pour les couteaux, pour les samouraïs. Et c'est payant, parce qu'il passe à table.
Bon, je vais vous expliquer pourquoi je les ai tués.
Et là, avec un calme stupéfiant, sans honte, sans fierté, sans exaltation, sans aucune agressivité, il raconte tout en détail. Il explique que deux jours avant la tuerie, il est allé acheter du cannabis dans une cité de Pau et qu'il s'est fait agresser par des dealers. Ça l'a blessé, alors il voulait se venger. Pendant deux jours, il a ruminé sa vengeance dans sa chambre. Et le 17 décembre, vers 23h, il est sorti avec un couteau de cuisine pour se venger. Il est allé à la cité. Il n'a pas trouvé les dealers. Et là, il dit qu'il a été attiré comme un aimant dans la direction de l'hôpital psychiatrique.
Je connaissais. J'y suis allé plusieurs fois. L'endroit est aux mains des nazis et des extraterrestres.
Dans le parc, il a fumé un joint. Il a remarqué que l'un des pavillons était allumé. Il a voulu entrer, les portes étaient fermées. Alors avec son couteau, il a voulu dévisser un vasistas et il s'est cassé. Il est entré, il a passé le vestiaire, il a avancé dans le couloir et là, il est tombé sur Chantal Klimaszewski. Et il l'a roué de coups de couteau. Après, il est allé dans le bureau, il a égorgé Lucette Gariot. Et puis il est revenu près du premier corps et il lui a tranché la tête avant de la déposer sur le téléviseur. Après quoi, il est rentré chez lui, il s'est lavé, il s'est couché et il s'est endormi. Voilà, Romain Dupuis répète tout ça au juge d'instruction, qui le met en examen pour meurtre sur professionnel de santé, tout en se disant que c'est sans avenir. C'est un malade, il va probablement être impossible de le juger.
On de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une terrible affaire criminelle, l'affaire Romain Dupuis, du nom de ce jeune schizophrène de 21 ans qui, en décembre 2004, à l'hôpital psychiatrique de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, a décapité une infirmière et posé sa tête sur un poste de télévision avant d'égorger ensuite une aide-soignante. Identifié grâce à son ADN, il est arrêté et avoue le double meurtre. Mais à partir de ce moment-là, une réalité s'impose. C'est un malade mental, il ne peut pas être jugé. Même si c'est douloureux pour les familles des deux victimes. Mais en attendant la décision du juge, il faut que je vous raconte une histoire dans l'histoire. L'histoire de Romain et de sa maladie. Telle que me l'a racontée, il y a quelques années, sa mère pour l'émission « Fait entrer l'accusé ». Rien ne m'a plus marqué dans toute ma carrière que ma rencontre avec Madame Dupuis. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai demandé à un psychiatre de venir débriefer cette histoire avec moi, le docteur Florian Ferreri de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Les premiers signes de la maladie de Romain apparaissent quand il a 8-9 ans, dans ses dessins. Il dessine des créatures étranges, des têtes découpées déjà, et il met du rouge partout pour représenter du sang. Et puis la nuit, il entend des voix. Il voit des créatures devant son armoire. Elles lui veulent du mal. À l'adolescence, Romain ne veut plus sortir de chez lui. Il a peur des zombies qui l'attendent dehors. Alors il reste enfermé. Ses parents voudraient qu'il voie un psychiatre, mais lui, il ne voit pas de raison. Les malades psychiatriques ne savent jamais qu'ils sont malades. À 17 ans, Romain est finalement diagnostiqué schizophrène. Il est hospitalisé de temps en temps, 3 semaines, et puis il ressort. Et en général, il arrête son traitement et il replonge. Durant les longues années qui ont précédé la tuerie, sa mère a tenté de le faire interner 100 fois. Elle s'est heurtée à un mur.
Bien sûr qu'on pouvait l'éviter. Il suffisait de pas grand-chose. Romain est très réceptif au traitement qu'il reçoit. Il est très réceptif. J'ai des scènes encore en mémoire. Je me rends au CHP de Pau avec 1,5 litre d'eau, un gros bouquin, et je leur dis très calmement, voilà, je ne bougerai pas d'ici tant que vous ne me suivrez pas pour faire interner Romain, parce que nous allons le perdre. J'ai ajouté, s'il lui arrive quelque chose à lui ou une autre personne, je vous en tiendrai responsable.
Alors maintenant, dans cette affaire, il revient à des experts psychiatres de dire si oui ou non, Romain Dupuis était en état de démence au moment où il a tué. Si son discernement était aboli, si la réponse est oui, alors en vertu de l'article 122.1 du Code pénal, il ne pourra pas être jugé. Le juge d'instruction missionne un premier expert, le docteur Jean-Claude Chanceau, qui voit Romain à 3 reprises. Son rapport fait l'effet d'une bombe. Oui, il a d'importants troubles de la personnalité. Mais c'est à cause de sa consommation excessive de cannabis. C'est le cannabis qui provoque ces bouffées délirantes. Donc au moment du crime, son discernement était altéré, mais il n'était pas aboli. Donc, il est responsable de ses actes. Donc, il va pouvoir y avoir un procès. Le juge est un peu surpris, puisque Romain était diagnostiqué schizophrène. Alors il commande une deuxième expertise, qui est réalisée celle-là par un collège de 3 psychiatres, les docteurs Archambault, Coutenceau et Dubec. Et eux, ils n'ont aucun doute. Romain Dupuis est atteint d'une schizophrénie paranoïde, qui se manifeste notamment par un délire de persécution. Il n'est pas responsable de ses actes. Un partout, donc, la balle au centre. Alors le juge missionne un autre psychiatre, et un autre psychiatre, et encore un autre psychiatre. Et à la fin, 8 psychiatres considèrent qu'il est schizophrène, et un seul qu'il ne l'est pas. Et sur cette base, à 1 contre 8, on est parti pour un non-lieu psychiatrique. Il ne devrait pas y avoir de procès. Mais maintenant, mettez-vous à la place des maris des 2 victimes, des enfants, des parents. S'il n'y a pas de procès, ça veut dire qu'on s'arrête là. Circuler, il n'y a rien à voir. Les familles sont ulcérées. Alors elles organisent un rassemblement qui réunit 500 personnes pour exiger un procès d'assises. Là-dessus, la politique s'en mêle. Nicolas Sarkozy vient d'être élu président, il vient dans la région et il prend position.
Que veulent ces familles? Qu'il y ait un procès. Que veulent ces familles? Pouvoir faire le deuil. Et que veulent ces familles? Qu'on leur explique pas qu'il y a un non-lieu. Parce que quand vous avez votre femme ou un membre de votre famille qui est assassiné, qui est égorgé ou qui est décapité, et que la justice vous explique qu'il y a un non-lieu, c'est-à-dire que l'événement n'a pas eu lieu.
Mais peu importe ce qu'en pense le président de la République, la justice en France est indépendante. Et le 28 août 2007, en application de l'article 122.1 du Code pénal, le juge d'instruction prononce un non-lieu psychiatrique. Il n'y aura pas de procès d'assises. Mais il y aura quand même une sorte de procès. Je vous raconte aujourd'hui une terrible affaire criminelle. L'affaire Romain Dupuis, du nom de ce jeune schizophrène de 21 ans, qui en décembre 2004, à l'hôpital psychiatrique de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, décapite une infirmière et pose sa tête sur un poste de télévision et égorge ensuite une aide-soignante. Dans un instant, c'est avec un psychiatre que j'ai choisi de débriefer cette histoire, le docteur Florian Ferreri, de l'hôpital Saint-Antoine, à Paris. Nous en étions au moment où, après avoir consulté 9 psychiatres différents, le juge d'instruction vient de rendre un non-lieu psychiatrique. Il n'y aura pas de procès. Le juge accepte l'idée que Romain Dupuis était en état de démence au moment des faits. Et il applique le code pénal, il applique la loi. Mais les familles des victimes, elles ne l'acceptent pas. Elles veulent un procès et donc elles font appel de la décision du juge. Et l'appel se déroule au cours d'une audience publique le 7 novembre 2007 au palais de justice de Pau. Et ce jour-là, la salle est pleine à craquer, au point qu'on est obligé d'ouvrir une salle annexe avec une retransmission vidéo. Et bien entendu, les familles des deux victimes sont au premier rang.
Il me tardait que ce moment arrive parce qu'il me tardait de rencontrer Romain Dupuis et j'espère qu'il sera là et qu'on ne l'aura pas assommé de médicaments, qu'il sera lucide et qu'on pourra entendre sa voix, qu'on pourra l'entendre s'exprimer.
Et le voilà qui entre dans la salle, accompagné d'infirmiers. C'est un jeune homme aux cheveux longs, bruns, noués en arrière. On lui demande de raconter. Il raconte. D'une voix monocorde, un peu nasillarde, il raconte. Et les familles trouvent qu'il n'a pas l'air complètement fou.
Et il a des regards qui expriment quelque chose. Je pense que quelqu'un de fou n'a pas ces regards-là. Il n'est pas atteint comme il y en a qui prétendent, je ne pense pas. Peut-être pas bien, mais fou complètement, non. Il regarde bien les gens quand on lui parle. Il écoute bien ce qu'on lui dit. Il répond très bien. Pour moi, il ressemble à un jeune qui a un peu abusé de toutes choses, mais qui sait ce qu'il a fait, ça c'est sûr.
Et pourtant, dans son récit, de temps en temps, il délire. Pourquoi est-ce qu'il avait des vis partout dans les poches? Parce qu'il avait peur d'être attaqué par des chiens. Pourquoi est-ce qu'il a décapité Chantal Klimaszewski? Parce qu'il a cru qu'elle était ressuscitée, il a voulu la tuer pour de bon. L'audience dure 3 jours. Et à la fin, sans surprise, les 3 juges confirment que Romain Dupuis n'est pas responsable de ses actes. Ils confirment l'ordonnance de non-lieu psychiatrique. Et maintenant, c'est définitif. Il n'y aura pas de procès dans cette affaire. Et Romain Dupuis retourne dans une unité pour malades difficiles à Cadillac, en Gironde.
Marie-Claire Dupuis, comment va Romain aujourd'hui ?
Il réagit très bien au traitement. Et c'est un schizophrène qui, s'il est traité, parce qu'il faudra qu'il le soit.
À vie ?
Toute sa vie, il faudra qu'il soit surveillé.
Et s'il est traité, alors ?
Mais s'il est traité, il se reconstruit.
Vous pensez-vous aujourd'hui qu'on pourrait laisser sortir Romain sans prendre de risques ?
Oui, avec un infirmier. Et chaque étape doit être contrôlée, surveillée.
Accompagnée ?
Accompagnée.
Et est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer des gens qui ont perdu des proches, qui sont morts sous les coups de votre fils ?
Ce n'est pas mon fils qui agit ce jour-là.
C'est son autre, lui.
C'est un fou.
Voilà pour ce récit qui se termine donc par cet extrait de l'émission Faites entrer l'accusé, dans laquelle Madame Dupuis s'est exprimée pour la seule et unique fois sur la maladie de son fils. Alors pour débriefer cette histoire, parce qu'il faut la débriefer, je peux pas vous laisser en vrac avec cette histoire, j'ai demandé à un psychiatre d'être là, le docteur Florian Ferreri de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Docteur Ferreri, j'ai presque envie de vous dire, qu'est-ce que vous souhaiteriez expliquer à nos auditeurs à la fin de cette histoire, que vous savez, vous, qu'ils ne savent pas, eux?
Alors, c'est une histoire qui est empreinte d'émotion, et quand il y a de l'émotion, c'est parfois difficile de réfléchir, on a rapidement une opinion. La question qui a dû se poser à l'époque et qui se pose encore, c'est le diagnostic psychiatrique et de quel trouble parle-t-on? Pas que ça justifie de commettre des actes tels que ceux qui ont été commis, mais est-ce que ça permet de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer? Et la maladie schizophrénique, c'est une maladie vraiment difficile à repérer, et puis c'est une maladie qui est difficile à vivre pour les personnes qui en souffrent.
Alors, difficile à repérer, dites-vous, ça veut dire qu'il n'est pas totalement illogique qu'en consultant 9 psychiatres, on en ait trouvé un qui ne trouve pas de schizophrénie.
Alors, ça peut paraître comme ça à froid un petit peu curieux, puisque Romain avait été diagnostiqué de longue date. Le diagnostic était déjà posé, il s'agissait principalement de le réévaluer et de le revalider. Je pense que il y a la question diagnostique et puis peut-être ce qui a pu jouer, et une des difficultés, ça peut être la distinction entre l'altération et l'abolition du discernement et la consommation de toxiques. C'est-à-dire, on peut avoir une maladie de fond, comme une maladie schizophrénique, et puis être stabilisé et à un moment décompenser brutalement à l'occasion de la prise de toxiques.
Souvent, les schizophrènes consomment soit du cannabis, soit de la cocaïne, soit de l'alcool.
Malheureusement, effectivement, les personnes qui souffrent de schizophrénie consomment beaucoup de toxiques, jusqu'à 30 à 40% selon le dernier chiffre, et ça peut aggraver la pathologie.
Et la déclencher éventuellement.
Alors, être révélateur de la maladie lors des premiers épisodes, tout à fait, notamment le cannabis, ça c'est très bien décrit. Et puis, finalement, les personnes qui sont schizophrènes et qui consomment ont finalement un moins bon pronostic avec des épisodes de décompensation qui sont plus longs et une réponse au traitement qui est moins bonne.
Quand vous recevez un patient et que vous ne savez rien de lui, quels sont les moyens que vous avez de détecter s'il est schizophrène ou pas? Est-ce que ça se voit rapidement? Le premier médecin qui voit Romain Dupuis, le premier expert, le voit à 3 reprises, 3 fois 45 minutes à Cadillac où il est hospitalisé. Il ne détecte pas, au cours de ces 3 entretiens, de symptômes de schizophrénie. Qu'est-ce que c'est qu'un symptôme de schizophrénie? Et au fond, est-ce qu'un malade peut se cacher?
Alors, la schizophrénie, c'est pas un symptôme, c'est un ensemble de symptômes. On va même parler de syndrome, pour utiliser quelques mots médicaux. Il y a plusieurs éléments qu'on recherche. Il y a d'une part, est-ce que la personne délire? Est-ce qu'elle est persécutée? Est-ce qu'elle a des hallucinations? Est-ce qu'elle est au contact de la réalité ou est-ce qu'elle ne l'est pas?
Mais il est possible qu'au moment du diagnostic, elle ne le soit pas.
Elle est possible que ça soit atténué ou que la personne, étant très méfiante ou très réticente à exposer ce qu'elle a exposé, n'en fasse pas état des craintes qu'elle peut avoir sur une persécution
éventuelle. Qu'elle se dissimule un peu.
Qu'elle se dissimule, mais souvent dans le but de se protéger elle-même, elle n'a pas confiance, en quelque sorte.
Oui.
Pour certaines personnes, ils sont dans leur vérité, ils ont l'impression que c'est les autres qui font partie d'une non-vérité, voire d'un complot. Donc le fait de ne pas dire des choses, c'est pas forcément, on les cache, mais des fois c'est pour se protéger. Donc ça, c'est un ensemble de symptômes qu'on recherche. Le délire, alors soit la personne l'exprime, soit on va essayer de repérer dans le comportement. Par exemple, quelqu'un qui chez qui on peut avoir l'impression qu'il écoute une voix ou quelque chose, qu'on appelle une attitude d'écoute, ou qu'il est parasité dans sa pensée par quelque chose.
Quand vous lui parlez, il entend pas comme
il entend,
quoi.
Il entend ou il marmonne quelque chose, on a l'impression qu'il est en dialogue avec une personne qui n'est pas là. Ça peut nous donner des signes d'alerte. On va aussi regarder, est-ce qu'il y a une désorganisation de la pensée? Est-ce que les émotions sont concordantes avec les actes? Est-ce que la personne est presque dissociée? C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes en une qui ont du mal à cohabiter avec des sentiments opposés, par exemple l'amour, la haine, la demande de soins, le refus de soins, donc des choses qui sont extrêmement difficiles à vivre pour une seule et même personne. Et puis enfin, on va rechercher un comportement, un repli social qui fait que cette personne-là est dans une bulle à elle. Et avec ces éléments-là, on est capable en général de poser le diagnostic, sachant que ça reste clinique. On n'a pas de test diagnostic pour faire un diagnostic de schizophrénie.
C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais dire à la fin d'un entretien avec un malade, à coup sûr il l'est ou à coup sûr il n'est pas.
Alors on a quand même des critères diagnostiques qui sont au niveau international reconnus. Quand la personne répond à l'ensemble des critères, on est capable de poser un diagnostic. Est-ce que ce diagnostic pourra éventuellement être révisé à l'occasion d'une nette amélioration ou de la découverte d'autres choses? C'est possible, mais on est en général capable de poser un diagnostic, pas forcément au cours d'un entretien, mais avec plusieurs entretiens, on est dans les formes typiques assez capable de poser le diagnostic.
L'une des mamans de victimes dit au moment de cette audience d'appel sur le non-lieu psychiatrique, son regard exprime quelque chose, il n'est pas complètement fou. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? C'est-à-dire qu'on s'attendrait évidemment que le malade schizophrène soit totalement barré et qu'il n'ait aucune rationalité. Ça n'est pas si simple que ça.
Ça n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que la schizophrénie modifie le comportement de sujet et ce qu'il était par rapport à avant le déclenchement de la maladie. Mais dans un certain nombre de domaines, et ça dépend des personnes et d'une autre, il garde des capacités qui peuvent être très proches de la normale, voire normale. Ça dépend un petit peu, est-ce que la personne est traitée ou pas traitée et quelle forme de schizophrénie est là. Donc bien entendu qu'un patient schizophrène exprime des émotions, a son mot à dire, est capable dans certains cas de travailler, d'être inséré dans la société. Donc à certains moments, oui, il y a de la lucidité, heureusement.
Alors on va marquer une pause et ensuite je voudrais qu'on parle des difficultés que sa mère a eues à le faire hospitaliser à l'hôpital psychiatrique. Elle dit que dans les 3 années qui précèdent le passage à l'acte de Romain, elle a tenté à plusieurs reprises de le faire interner, qu'elle n'y est pas arrivée. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir nous expliquer. À tout de suite.
On de la raconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'affaire Romain Dupuis, du nom de ce jeune schizophrène de 21 ans qui en 2004 à Pau décapite une infirmière, égorge une aide-soignante de l'hôpital psychiatrique, et je vous ai dit toute la difficulté qu'il y a eu à faire entendre aux familles de victimes qu'il ne pouvait pas y avoir de procès puisqu'il avait agi en état de démence. Et je vous ai aussi raconté les difficultés qu'a rencontré sa maman dans les 3 années qui précèdent le drame pour le faire hospitaliser. Et je suis avec un psychiatre, le docteur Florian Ferreri de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Pendant 3 ans, cette femme va régulièrement à l'hôpital psychiatrique en disant « il faut que vous interniez mon fils ». Il y a même un moment où ils veulent l'hospitaliser elle-même tellement elle est insistante. Elle est en train de devenir folle à l'hôpital psychiatrique dans son désir de faire hospitaliser son fils. Comment expliquer la difficulté qu'elle a eue? Est-ce qu'on manque de place aujourd'hui pour les grands schizophrènes dans l'institution psychiatrique?
Alors, d'une manière générale, on manque de place, mais cependant, quand on doit hospitaliser un patient contre sa volonté, via un cadre légal pour le faire, on l'hospitalise quoi qu'il arrive. Après, les conditions d'accueil peuvent être difficiles, notamment quand on a une période où il y a beaucoup d'activités, mais on peut hospitaliser les personnes contre leur volonté. Une des difficultés qui peut se poser, c'est quand il y a un risque qui est un petit peu chronique, c'est qu'il est difficile de garder les personnes contre leur volonté extrêmement longtemps. Et que le temps de l'hospitalisation, ce qui a été dit, c'est que...
On a dit trois semaines.
Et qu'il s'améliore pendant l'hospitalisation, donc il ne relève plus des critères pour rester à l'hôpital. Malheureusement, semble-t-il, il se dégrade assez vite quand il sort de l'hôpital. La maman évoquait un problème de respect de la prise des médicaments. Donc ça, c'est une des difficultés importantes que l'on peut rencontrer dans ces cas-là.
Parce que ce qu'on ne dit pas, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que les psychotropes que prennent les schizophrènes font grossir, par exemple. C'est-à-dire, les types deviennent de vraies bonbonnes. Donc assez naturellement, dès qu'ils sortent, ils arrêtent. Parce qu'ils veulent pas devenir de vraies bonbonnes.
Alors, parmi les traitements qu'on donne, effectivement, le rapport avantage sur inconvénient étant quand même en faveur des traitements, mais il y a des inconvénients. Ce sont des médicaments, pas forcément la prise de poids, même si ça peut arriver, mais il y a tout un équilibre à trouver pour que la personne ressente des avantages et qu'elle ne se sente pas soit moins alerte, soit prenant du poids. Donc, ce sont des traitements antidélirants qui apportent beaucoup, mais qui ont des contraintes. Ça, c'est
mais vrai. Comment expliquer que cette maman ne soit pas arrivée? Et puis, ça n'est pas la seule. Ce sont des histoires qu'on entend régulièrement de parents qui ont des enfants psychotiques, qui veulent les faire interner parce qu'ils vivent avec eux, ils voient les difficultés qu'ils rencontrent et qui ne parviennent pas à persuader l'institution qu'il faut les interner.
Alors des fois, ça peut être un vrai défaut de l'institution, à un moment donné où il y a vraiment une défaillance. D'autres fois, c'est aussi on se heurte à la liberté individuelle. Et effectivement, on ne peut pas contraindre quelqu'un à rester à l'hôpital si l'ensemble des critères sont pas réunis. Alors bien sûr, quand on parle dans le cadre de cette émission, on voit le drame qui s'est produit, ça paraît complètement anecdotique ce que je dis, mais quand même, les patients qui souffrent de délire ou de schizophrénie ne sont pas hospitalisés systématiquement dès qu'ils vont moins bien. Il y a d'autres formes de soins qui peuvent être mises en place, et c'est pas forcément l'hospitalisation. Dans le cas présent, effectivement, a posteriori, on peut regretter qu'il ait pas été hospitalisé, bien entendu.
Un patient schizophrène qui prend régulièrement son traitement et qui est réceptif à ce traitement peut mener une vie parfaitement normale hors l'hôpital?
Alors, en dehors de l'hôpital, oui. Quand on est amélioré de la maladie, il peut cependant persister des handicaps, notamment au niveau de l'attention, de la concentration, de l'organisation. Et c'est une vie à l'extérieur de l'hôpital qui est tout à fait envisageable, souvent avec s'il y a un travail, des postes aménagés, voire des aides qui peuvent être nécessaires quand même pour que les choses se passent bien. Mais la vie d'un patient schizophrène n'est pas à l'hôpital, elle est à l'hôpital lors des moments de crise, mais le lieu de vie est en général à l'extérieur de l'hôpital, soit dans sa famille, soit de façon autonome suivant les formes de la schizophrénie, soit dans des structures hospitalières, mais qui sont des lieux de vie pour le sujet.
Un patient schizophrène peut vivre hors les murs de l'hôpital toute sa vie.
Ah, tout à fait. Un patient schizophrène qui prend son traitement et qui a un suivi régulier passe, heureusement pour lui, beaucoup plus de temps à l'extérieur de l'hôpital qu'à l'intérieur des murs de l'hôpital. Et ça, c'est depuis l'avènement des médicaments. Donc, dans les années 50, avant, c'était les asiles. Maintenant, on n'a plus d'asile en tant que tel. Et puis, grâce à l'amélioration aussi de la structuration des soins en France.
Alors, actuellement, la mère de Romain Dupuis se plaignait que quand il sortait, il ne prenait pas son médicament. Les choses ont évolué depuis cette affaire-là.
Les choses ont évolué. Ça, c'est une grande problématique. C'est que les sujets qui vont mieux avec les traitements n'ont pas forcément connaissance qu'elles en ont besoin au long cours, alors que leur entourage et les médecins jugent que c'est le cas. La réglementation a un petit peu évolué. On peut d'une part toujours contraindre les personnes à être hospitalisées quand elles sont dangereuses pour elles-mêmes ou dangereuses pour autrui. Et on peut, au moment de la sortie de l'hôpital, faire des contrats de soins où on impose à la personne de continuer les soins, c'est-à-dire les consultations, les activités et les traitements, tant que c'est jugé nécessaire par l'équipe soignante.
C'est-à-dire qu'il va où ? Dans un centre médico-psychologique ?
C'est-à-dire qu'il peut être suivi dans un centre médico-psychologique, il peut être suivi dans un hôpital de jour, en tout cas...
Où il va tous les jours prendre son traitement.
Alors, c'est pas forcément tous les jours, c'est une modalité qui est définie avec la personne. Certaines personnes peuvent avoir des traitements qui ont une efficacité d'un mois, par exemple, donc ils peuvent être vus tous les mois ou tous les trois mois. Et quand la situation se dégrade très rapidement, on n'est pas obligé de refaire toute la procédure réglementaire. On peut réhospitaliser la personne dès les premières difficultés.
L'interview de Madame Dupuis, le court extrait qu'on a entendu à la fin, elle dit « Il va mieux, il est réceptif aux médicaments ». Il pourra sortir un jour de l'unité pour malades difficiles de l'hôpital de Cadillac et même de l'hôpital psychiatrique tout court. Et rien ne l'y en empêche, il n'a pas été condamné à une peine de prison, donc dès qu'il va mieux, la logique de l'hôpital psychiatrique est de le laisser sortir. C'est pensable.
La logique, c'est de prodiguer des soins, et quand les conditions sont réunies, c'est déjà, dans un premier temps, d'alléger le système de surveillance de malades difficiles à une unité, on va dire, plus classique. Et puis, encore une fois, si un collège d'experts se prononce sur une rémission des symptômes, une amélioration suffisante, alors effectivement, un retour à la vie normale est envisageable, sous réserve que la réponse au traitement soit suffisante et que ça s'inscrit dans un projet de soins. Il ne s'agit pas de laisser sans filet des personnes qui ont commis des actes extrêmement graves.
On laisse ressortir tous les jours des psychotiques dangereux d'hôpital psychiatrique sous réserve qu'ils prennent leur traitement.
Alors, on évalue le risque de dangerosité. Toutes les personnes qui souffrent de schizophrénie ne sont pas dangereuses, hein, c'est moins de 10%. Cependant, un certain nombre sont dangereuses. Ceux qui sont dangereuses, on essaie de prévenir le risque, de limiter au maximum ce risque grâce au traitement, grâce à la prise en charge soutenue et à la prévention aussi des prises de toxiques qui est un grand pourvoyeur de passage à l'acte.
Merci à vous, docteur Ferreri. Merci d'avoir accompagné l'indispensable débrief de cette histoire.
Merci, Christophe Ondelat. Merci à vous. On vous retrouve bien sûr demain et dimanche, car Ondelat raconte, eh bien, c'est 7 jours sur 7 sur Europe 1 à 14h. Et tous les récits d'Ondelat raconte sont à retrouver, bien sûr, dès maintenant en podcast sur Europe 1.fr.